actuelle des statuts.
En conclusion de cette présentation nécessairement rapide toujours, on peut retenir que le Coran et la tradition prophétique ont incontestablement introduit des éléments d'émancipation, des éléments de progrès au niveau de ce qu'on peut appeler la personne humaine. Ceci, nous l'avons déjà rencontré et signalé à propos d'autres questions dans le Coran, telles que le Coran les envisage. Promotion donc spirituelle, par exemple, du statut religieux de la femme, au même titre que le statut religieux de l'homme, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a une différence d'ordre juridique, alors qu'il y a une promotion au niveau spirituel de l'homme et de la femme, qui sont également appelés à cette alliance avec Dieu et à rejoindre Dieu et à vivre l'absolu de Dieu de la même façon. Donc sur ce point, il faut bien différencier une situation juridique qui est imparfaitement prise en charge et une situation spirituelle qui, elle, est parfaitement prise en charge. C'est ce qui légitime d'ailleurs l'intervention actuelle des religions qui revendiquent ce progrès qu'elles ont fait accomplir à la femme, et c'est ce qui explique peut-être la rigueur et la force avec laquelle l'Église, par exemple, actuellement, intervient sur la question de la contraception, sur la question de la sexualité, sur la moralisation ou la spiritualisation de la sexualité, de l'acte d'amour, etc. Il y a tout un débat là qui est en train de revenir, mais qui, à mon avis, là aussi, revient davantage à un niveau idéologique qu'au niveau profond où il faudrait le situer. En ce moment, en France, nous assistons justement à ce débat où l'on oppose l'attitude rigide et inexplicable de l'Église au sujet du sida et l'attitude pragmatique toujours d'une approche purement pratique de la question qui consiste à se préserver du sida sans poser un problème qui se pose et qui est celui du statut général de la sexualité et du rôle de la sexualité dans notre existence et du sens qui, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, doit s'attacher à la vie sexuelle de l'homme et de la femme aujourd'hui. À partir de cette base, donc, d'un certain progrès introduit par le Coran et par la tradition prophétique, il est possible, à mon sens, de faire rebondir la question de la condition féminine à l'intérieur des sociétés musulmanes, mais aussi à l'intérieur des sociétés occidentales, pour poser ce problème-là à un niveau d'émancipation générale de la personne humaine. Et ceci, bien sûr, dépasse considérablement le cadre de la loi musulmane, le cadre de la charia, tel qu'il continue d'être appréhendé et présenté par la pensée musulmane contemporaine, mais peut-être reviendrons-nous à cette question de la loi musulmane dans un autre chapitre. La question du divorce qui est posée ensuite n'est qu'un cas particulier du problème général que je viens d'évoquer au sujet du statut de la femme dans cette fois-ci le droit musulman, parce que la question du divorce et de la répudiation est une question réglementée de façon précise par le code juridique tel qu'il fonctionne, et ce code juridique a été élaboré durant les trois premiers siècles de l'Hégire, c'est-à-dire dans la période médiévale. Et il a été élaboré dans un contexte culturel où ces notions modernes des droits de l'homme, ces notions modernes du statut de la personne au sens philosophique où nous l'entendons aujourd'hui, évidemment, ne se posaient pas avec la clarté et la force que nous connaissons dans la société moderne. Et donc, là aussi, pour juger de la pratique de la répudiation qui est admise dans le droit musulman, par opposition au divorce qui met à égalité l'époux et l'épouse devant un droit qui juge les deux, cette question-là doit être jugée en fonction des contextes culturels et des contextes historiques où fonctionne la répudiation. Je ne dis pas cela pour justifier en aucune façon la répudiation qui est effectivement une situation d'inégalité, mais je dis cela pour situer historiquement une législation et pour situer idéologiquement cette législation telle que les États contemporains dans les pays musulmans la restaurent pour des raisons idéologiques et politiques qu'il convient également d'analyser et qui, si elles sont analysées de façon correcte, permettraient non pas de légitimer la pratique de la répudiation, mais de comprendre qu'il y a des contraintes qui viennent de l'histoire, qui viennent de la société, et des contraintes qui ne peuvent être dépassées que par le mouvement historique général de la société, et non pas par des interventions ponctuelles et isolées sur des points de droit. Oui, alors après ça, on passe à quelle question ?
On passe à la question suivante. Oui. Y a-t-il pour l'islam des dogmes, et quels sont-ils ?
Question 6.
Oui.
7.
Oui, toute religion constituée a nécessairement des dogmes, et le dogme, ce sont des croyances qui ne sont pas soumises à une discussion, qui ne tolèrent pas, par conséquent, d'intervention critique de la part de la raison. Un dogme est accepté tel que il est livré dans les textes considérés comme sacrés, les textes considérés comme transcendants, et la raison humaine ne peut approcher ces enseignements et ces dogmes qu'avec le respect qui est dû à la transcendance, qui est dû à Dieu, et c'est ce qui arrive en ce qui concerne les dogmes de l'islam. Premièrement, parmi ces dogmes, il y a les cinq obligations fondamentales qui pèsent sur tout musulman et auxquelles tout musulman doit satisfaire pour faire partie de cette communauté de croyants que j'ai évoquée plus haut. Les cinq obligations fondamentales, donc canoniques, l'arkan al-khamsa, comme on dit en arabe, c'est premièrement la profession de foi. La profession de foi, c'est ce témoignage rendu par chaque croyant individuellement en tant que conscience libre qui atteste par le je, l'engagement du je, puisqu'on dit je témoigne, j'atteste, je. C'est le jeu qui est engagé. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu unique. La ilaha illallah. Et j'atteste, wa ashhadu, et j'atteste qu'il n'y a, et j'atteste que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Évidemment, ces deux propositions contiennent un condensé, comme vous le voyez, de toute l'histoire du salut, de toute l'histoire de la révélation. En effet, quand je dis « j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu », qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je divise l'histoire et l'espace en deux. Je divise le temps et l'espace en deux. L'espace-temps, où il y avait le polythéisme. L'espace-temps occupé par un christianisme et un judaïsme altérés, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'espace-temps occupé par l'absence de révélation. Et puis, l'espace-temps occupé par le dernier état de la révélation, qui est la révélation coranique. Donc, vous voyez que par ce petit membre de phrase, je définis toute une théologie, je définis toute une vision du monde, je définis une condition de l'homme par rapport à Dieu. C'est tout cela qui est contenu dans « Ashhadu an la ilaha illallah ». J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu unique. Deuxième partie de la proposition, j'atteste que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ceci crée, va créer, malheureusement, une frontière entre les musulmans et les peuples du livre. En effet, les juifs et les chrétiens refusent de prononcer, ils peuvent prononcer la première partie. Et il y en a qui la prononcent. Ils peuvent sans difficulté théologique prononcer la première partie. Mais ils refusent de prononcer la deuxième partie. Et voilà pourquoi il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Darul Islam, une maison de l'islam, un espace de l'islam. Et puis un espace des infidèles au sens que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est par la profession de foi ainsi définie que on entre dans l'espace particulier de la communauté musulmane. C'est un rite de passage, comme on dit en termes techniques. De même que pour le juif, le rite de passage pour entrer dans la communauté juive est la circoncision. De même que pour le chrétien, le rite de passage, c'est le baptême. Pour le musulman, le rite de passage, c'est cette profession de foi ainsi prononcée, avec évidemment une adhésion intérieure. Avec une adhésion intérieure. Ça, c'est le premier dogme, c'est la clé. Une fois qu'on a prononcé ça, tout le reste va en découler. Parce que si j'accepte que Mohammed est l'envoyé de Dieu, j'accepte que Mohammed a reçu le Coran. J'accepte que l'ensemble du Coran me dit le dernier état de la volonté de Dieu, de la révélation. Et j'accepte que la loi religieuse, la charia, qui va être dérivée du Coran, représente le droit idéal, le droit absolu, le droit divin. Tout le reste en découle. Bien. Bon, les quatre autres obligations, c'est la prière, 5 fois par jour. Il faut faire 5 fois par jour la prière. Troisièmement, l'aumône ou la dîme religieuse, comme on dit en français, mais en arabe, ça, c'est la zakat. Le mot zakat est un mot qui signifie la purification religieuse. C'est la purification des biens que l'on possède par un don volontaire fait en dehors de l'État. Ce n'est pas un impôt. C'est un don fait dans un esprit religieux pour la purification des biens aux pauvres, aux nécessiteux, à l'entraide sociale, la solidarité, etc. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan. Et enfin, le pèlerinage à la Mecque. Malheureusement, je n'ai pas le temps de commenter chacune de ces obligations pour montrer les dimensions et les fonctions religieuses, sociales, politiques, sémantiques de ces obligations. Tout à fait considérables. On peut dire que l'ensemble de la culture et de la civilisation musulmane sont plus ou moins liés à ces 5 pratiques fondamentales, parce que, par exemple, la prière a donné lieu à toute l'architecture des mosquées. Comme la prière chez les chrétiens ou chez les juifs donne lieu à toute l'architecture des églises et à tous les arts qui ont entouré l'architecture, l'intérieur, l'extérieur, etc. Donc, c'est toute une civilisation qui se trouve commandée. Le chant, la musique, etc. Le pèlerinage, c'est le parcours de l'espace, l'appropriation religieuse de l'espace. Pour l'aumône religieuse, ce sont évidemment tous les problèmes de solidarité politique, sociale, que nous vivons aujourd'hui sous le signe de l'impôt, tout ce que nous connaissons, et qui est vécu au niveau religieux en tant que rapport à Dieu et non pas rapport au percepteur, ce qui est tout à fait différent. Bien, ça donc ce sont les dogmes fondamentaux. Il y a d'autres dogmes qui font partie du système de croyance et qui sont définis dans les ouvrages spécialisés que l'on appelle les professions de foi. Par exemple, le dogme de la résurrection. Nous sommes appelés tous, fidèles et infidèles, nous sommes appelés à la résurrection. Et il y a un jugement dernier. Et il y a une vie éternelle. Et il y a une récompense et un châtiment, etc. Donc il y a tout un ensemble de croyances qui ne relèvent pas de la rationalité, du fonctionnement de la raison. Et tous les grands penseurs, y compris les philosophes, quand ils sont en face de ces commandements, eh bien, ils les reçoivent en tant que commandements d'une volonté absolue et transcendante, et ils ne se demandent pas comment ça va se faire, comment on va revenir à la vie, qu'est-ce que c'est que le paradis, etc. Il y en a qui le font, et ils essayent de décrire, mais enfin, ça c'est une sorte d'expansion lyrique du dogme. Mais le dogme est accepté comme tel, et il est vécu comme tel. Et là aussi, sur la question des dogmes, donc, il y a beaucoup d'explications à donner pour montrer comment les dogmes ont construit des mentalités, ont construit des sensibilités individuelles et collectives. Par exemple, la vision eschatologique de l'existence des hommes a donné lieu à toute la littérature apocalyptique chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Cette littérature apocalyptique qui permet à des collectivités croyantes de maintenir l'espérance radicale et vitale en un bouleversement de l'ordre du monde, cet ordre du monde qui nous contraint à vivre dans la souffrance, dans l'inégalité, dans l'oppression, dans la misère, dans l'épidémie, etc., etc., cet ordre du monde est appelé nécessairement à être renversé pour l'avènement, pour faire place à l'avènement d'un ordre parfait, divin, où, au contraire, tous ces maux et toutes ces contraintes disparaîtront. Le messianisme, le millénarisme, la littérature apocalyptique, tout cela est lié à la vision eschatologique et à la croyance eschatologique. Et là, nous touchons à des dimensions considérables des cultures, de la vie des sociétés, et nous touchons aux racines de l'ordre politique. Comment l'ordre politique a été maintenu et sur quoi les ordres politiques ont vécu et continuent de vivre jusqu'à présent, parce qu'il y a transformation de ces représentations que je décris. Il y a des langages différents, mais les fonctions subsistent, demeurent. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que il est moins 5 et...
Question 11. Qu'est-ce que l'islam retient des religions révélées intérieures, judaïsme et christianisme ?
Oui, on peut lier cette question à la question suivante qui demande également qu'est-ce que l'islam retient des autres religions et des coutumes pré-islamiques, en Arabie même, je suppose. En effet, ces deux questions peuvent être traitées dans une même perspective, en partant de la remarque importante pour la pensée islamique d'aujourd'hui, que ces questions posent le rapport de l'islam à l'histoire d'un côté et à la représentation de ce qu'a été la révélation avant l'islam
donc à la représentation de ce qu'on peut appeler l'histoire du salut dans la conception islamique. En effet, le judaïsme et le christianisme sont très présents dans le Coran et la révélation coranique s'inscrit dans la continuité spirituelle de la révélation faite au prophète de la Bible et faite à travers la personne de Jésus-Christ, qui est considéré, selon la conception islamique, même comme un prophète. La révélation est reprise en compte par le Coran et elle fonctionne comme une continuité dans le dessein de Dieu sur les hommes, sur l'humanité, sur les créatures, à savoir que Dieu intervient à des intervalles de temps plus ou moins espacés pour manifester ses volontés aux hommes et corriger, compléter les enseignements qu'il a donnés. Et c'est ainsi que on passe de Moïse à Jésus et de Jésus à Mohammed, ces trois noms étant les plus importants, les trois grands points d'appui de cette révélation continue qui est faite par Dieu aux hommes. Mais il y a un autre point d'appui qui est considéré comme l'origine de cette histoire du salut, cette histoire spirituelle, c'est la figure d'Abraham, qui est une figure religieuse extrêmement importante dans le Coran, puisque Abraham est présenté comme étant ni un juif, ni un chrétien, mais ce que le Coran appelle un hanif et un musulman. Je retiens ces deux mots dans leur forme arabe originelle parce qu'il est extrêmement difficile de les traduire en français, du fait que les historiens s'interrogent sur ce que représente le groupe des hanifs. C'est un groupe qui devait exister au temps de l'islam, au temps de la révélation coranique, et qui devait professer une religion épurée des croyances polythéistes, et donc proche de ce que est le monothéisme et de ce qu'est par conséquent l'islam naissant, puisque l'islam naissant a insisté en tout premier lieu sur la notion de monothéisme, de croyance en un Dieu unique. Le mot musulman, tel qu'il est employé également dans ce verset relatif à Abraham, désigne, comme je l'ai dit au début, essentiellement l'acceptation de la volonté de Dieu et le rapport d'obéissance qui lie la créature à son créateur, obéissance fondée sur un mouvement de reconnaissance de la créature vis-à-vis du créateur, et le créateur se présente dans le Coran comme Dieu qui a comblé l'homme de tous ses bienfaits. Nous lui donnons non seulement la vie, mais l'intelligence et tous les enseignements nécessaires pour lui permettre de traverser cette vie-ci dans les meilleures conditions et de gagner le salut éternel. Cette acceptation donc d'une relation d'obéissance avec Dieu détermine tout le style de la vie religieuse et l'esprit de la vie religieuse en islam, et il est incarné dès le départ dans la figure d'Abraham. Et cette définition récapitule ce qu'est la relation d'obéissance et la relation religieuse entre Dieu et les hommes, et le judaïsme et le christianisme se trouvent ainsi prises en charge spirituellement et religieusement par cette présentation d'Abraham comme étant le point de départ de l'expérience monothéiste idéale et de l'expérience religieuse qui dit la créature au créateur. Bien entendu, cette continuité qui existe et qui constitue
l'esprit fondamental de la nouvelle religion musulmane. Cette continuité, malheureusement, n'a pas joué un rôle unificateur entre les communautés juives et chrétiennes qui existaient déjà depuis longtemps et la nouvelle communauté qui va prendre son expansion immédiatement après la mort du prophète. Les juifs et les chrétiens, en effet, ont opposé une fin de non-recevoir à la nouvelle religion, à la nouvelle prédication et à cette nouvelle intervention de Dieu sous forme d'une révélation donnée dans le Coran. Et il s'est très vite développé une polémique entre les juifs et les chrétiens d'une part et le prophète et la première communauté musulmane d'autre part. Et cette polémique s'est déroulée autour principalement de le statut de la personne de Jésus dans le Coran. Jésus est reconnu donc comme un des grands prophètes qui a reçu la révélation de Dieu comme Moïse par exemple et comme Mohammed lui-même, mais il n'est pas reconnu comme étant le fils de Dieu selon l'enseignement chrétien. Et c'est un point de divergence évidemment extrêmement important entre l'islam et le christianisme. Ce point qui aujourd'hui soulève beaucoup de discussions mérite d'être pris en considération et étudié dans la perspective d'une théologie moderne, ouverte, qui permettrait de comprendre à la fois la position coranique au sujet de Jésus et la position chrétienne au sujet de Jésus et du Fils de Dieu. On sait qu'aujourd'hui les chrétiens, et d'ailleurs depuis très longtemps, les chrétiens discutent sur la personne du Christ, les uns rapprochant le Christ de la condition humaine, donc de la condition prophétique, et les autres insistant davantage sur l'aspect divin de la personne du Christ. Et ces discussions qui existent dans la théologie chrétienne pourraient servir de base à un élargissement du problème pour essayer de voir pour quelles raisons historiques l'islam a présenté à ses débuts la personne du Christ comme un prophète et non pas comme le Fils de Dieu dans la perspective chrétienne. De même pour le judaïsme, il y a beaucoup de points communs entre le judaïsme et l'islam, notamment sur la conception de Dieu et la conception de la révélation, la conception du livre, de l'écriture, etc. Le respect dû à Moïse et au prophète de la Bible, tout ceci constitue des points communs solides entre le judaïsme et l'islam. Mais là aussi, il y a eu, au temps même du prophète, des affrontements sévères, des affrontements militaires entre les communautés juives de Médine en particulier et la première communauté de Mohammed. Et ces affrontements ont laissé évidemment un contentieux extrêmement difficile à régler jusqu'à présent. Et le problème évidemment de la création d'Israël en 1948 ne fait que raviver un certain nombre de problèmes théologiques et même d'événements historiques, d'événements militaires qui se sont déroulés à Médine au temps du prophète, qui ont créé là aussi plus que des malentendus entre le judaïsme et l'islam. Il y a là également un point, un domaine plutôt, où la recherche théologique et la recherche historique devraient s'exercer pour comprendre l'origine de ces trois religions et les transformations introduites par chacune de ces religions dans l'histoire générale des religions révélées. Ceci est une tâche qui incombe aux historiens et qui incombe aux anthropologues, aux historiens de la culture et de la conscience religieuse du Proche-Orient ancien. Et malheureusement, le Proche-Orient ancien est étudié par des spécialistes indépendamment de ce que l'on fait par ailleurs pour ce qu'on appelle l'histoire du judaïsme ou l'histoire de l'Église ou l'histoire de l'islam, et une vue englobante de l'ensemble de l'espace culturel du Proche-Orient où ces trois religions ont pris naissance, et une histoire de la symbolique religieuse qui constitue, ou je dirais,
dirais, du stock de symboles religieux qui constitue le fond commun à cette voie religion, exploiter sémantiquement et exploiter symboliquement dans des directions qui ont abouti à des différenciations entre cette voie religion, l'étude de ce stock initial de symboles selon une approche à la fois historique et anthropologique représente pour la pensée religieuse contemporaine un terrain extrêmement excitant pour l'intelligence et extrêmement important et je dirais décisif pour un rapprochement réel en profondeur sur la base d'une compréhension de l'histoire, de la culture et d'une compréhension des fondements permanents de toute conception religieuse, de toute idée religieuse et principalement dans ce domaine si riche que représentent les trois religions révélées. Voilà en gros ce que l'on peut dire sur les relations de l'islam avec ces trois religions, et j'insiste sur un avenir qui est ouvert à la recherche et un avenir qui ne peut donner de nouvelles richesses que dans la mesure où on l'aborde avec un esprit scientifique qui soit à la mesure de la recherche historique telle qu'elle se pratique de nos jours et qui se libère par conséquent des systèmes théologiques que j'ai définis plus haut comme des systèmes culturels d'exclusion réciproque. Comment sortir de ces systèmes pour entamer une sorte de nouvelle histoire des religions révélées, c'est, je le répète, la tâche des chercheurs de notre temps, et parmi ces chercheurs, l'historien doit jouer un rôle de premier plan. Dans cette même perspective, on peut évoquer les rapports de l'islam avec les religions non révélées et donc avec ce que l'islam, comme le christianisme et le judaïsme, appelle le polythéisme. En effet, il y a une opposition entre les religions révélées qui constituent le triomphe de la conception monothéiste de Dieu avec toutes les conséquences qui en résultent pour la constitution d'une conscience historique, d'un développement chronologique de la révélation, d'une rationalisation de la conception religieuse, etc. Il y a une opposition donc entre ce grand courant monothéiste et les religions polythéistes qui caractérisent l'ensemble des religions vécues par les différentes sociétés, aussi bien en Proche-Orient que, je dirais, dans les autres continents. En ce qui concerne l'islam en Arabie, qui est son lieu de naissance, il faut remarquer que un grand nombre de pratiques religieuses qui existaient dans la religion arabe pré-islamique ont été maintenues par la nouvelle religion, mais évidemment réinsérées, réinterprétées dans le cadre du monothéisme qui constitue la pierre angulaire de la vision religieuse musulmane. Principalement le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, qui constituait le centre de la religion arabe pré-islamique, religion païenne, les rites qui constituent le pèlerinage à la Mecque, ce qu'on appelle la Kaaba, qui demeure encore jusqu'à nos jours, ces rites ont été conservés par la nouvelle religion, mais encore une fois réinterprétés et investis dans l'économie générale de l'islam religion monothéiste. Les principaux rites accomplis par le pèlerin aujourd'hui, lorsqu'il accomplit le pèlerinage à la Mecque, comme par exemple les tournées rituelles autour de la Kaaba, le pèlerin fait cette fois la tournée rituelle autour de la Kaaba, le tawaf en arabe, existait dans le pèlerinage avant l'islam. De même, le sa'y, c'est-à-dire la course rituelle entre deux collines à la Mecque, se pratique encore de nos jours dans le pèlerinage islamique. Et c'est l'objet de ce que l'on appelle la Umrah, c'est-à-dire le pèlerinage mineur que les musulmans peuvent accomplir tout au long de l'année, alors que le pèlerinage majeur, le grand pèlerinage, il n'a lieu qu'une fois dans l'année. Il y a également d'autres pratiques et d'autres coutumes qui existaient dans la société arabe pré-islamique et qui sont maintenues dans l'islam, avec toujours des changements ou des réinterprétations qui donnent à ces coutumes une signification plus proche de la conception monothéiste. Mais la nouvelle religion a insisté beaucoup, et dans le Coran, sur la distinction entre ce que le Coran appelle « el-jahiliya », c'est-à-dire la période du paganisme, la période de la croyance polythéiste, et l'islam, donc la nouvelle ère culturelle et la nouvelle ère de connaissance ouverte par la révélation coranique. Et symboliquement, plutôt on utilise dans le discours islamique la métaphore des ténèbres et de la lumière, en disant que l'islam est venu est venu apporter la lumière de la connaissance et la lumière de la vie spirituelle, la lumière de la vérité, sortant ainsi les Arabes et l'ensemble des musulmans par la suite des ténèbres, autre métaphore, de la jahiliya, c'est-à-dire de la période antérieure. Et cette opposition entre jahiliya et islam a fonctionné pendant toute la révélation et l'action prophétique de Mohammed à la Mecque et à Médine. Elle a fonctionné comme une opposition, évidemment, à la fois sociale et politique, entre l'ensemble des Arabes qui vivaient en Arabie selon une conception du sacré et de la religion qui était païenne, certes, mais que les Arabes considéraient comme l'expression religieuse vraie pour eux, et la nouvelle religion, le nouvel islam, qui au départ a représenté un petit noyau de fidèles autour du prophète. Et il y a eu donc une opposition très forte, puisque les Arabes voulaient défendre ce qu'ils considéraient comme étant la vérité de leur religion, la vérité de leurs valeurs sociales et politiques, et également un certain nombre de privilèges qui existaient notamment à la Mecque, l'aristocratie mecquoise, aristocratie à la fois économique et religieuse, contrôlait la vie économique et la vie politique et la vie religieuse à la Mecque, et ne voulait pas évidemment lâcher ses privilèges, puisque la nouvelle religion, dès le départ, a prêché une égalité entre les croyants, une égalité qui aller à l'encontre des hiérarchies généalogiques, des hiérarchies sociales fondées sur des hiérarchies de rapport des hiérarchies généalogiques, c'est-à-dire d'ascendance. Tout ceci a créé des oppositions sur le terrain, opposition militaire entre les premiers musulmans et l'ensemble donc des Arabes de la société traditionnelle dite pré-islamique. Et ce sont ces luttes qui ont forgé et galvanisé la communauté des premiers musulmans à la Mecque et ensuite à Médine. Et voilà pourquoi le Coran porte des traces très nettes de cette lutte politique et militaire entre les premiers musulmans et donc le reste de la population arabe avant sa conversion. Et cette lutte a déterminé une perception négative de tout ce qui a précédé l'islam, de ce qui va devenir dans la conscience collective des musulmans la jahiliya. La jahiliya, le mot jahil est traduit souvent par le mot français ignorance, c'est la période de l'ignorance, la période des ténèbres, qui est rejetée globalement au profit de la période du ilm, c'est-à-dire de la science, de la connaissance vraie, qui est introduite par le Coran et l'islam. Donc nous avons là un rapport conflictuel et je dirais mythique, une perception mythique de tout le passé des Arabes est une perception non moins mythique d'un avenir et d'un présent désormais radieux, désormais illuminé par les enseignements apportés par la révélation. Et j'insiste sur cette notion de perception mythique à la fois du passé et du nouveau présent et du nouvel avenir, du nouveau futur, perception qui est marquée d'ailleurs par l'introduction d'une nouvelle ère. En effet, 622, l'année chrétienne 622, correspond à l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire le point de départ d'une ère nouvelle. Et ceci est très intéressant à noter pour souligner justement cette perception mythique d'un avant dont il faut se libérer, qu'il faut oublier, qu'il faut abolir, parce que c'est un avant identifié avec les errements des hommes, avec la séparation de Dieu, les hommes sont séparés de Dieu, et puis un après, l'après de l'événement fondateur que constitue donc la révélation, et principalement cette date 622, qui est la date du point de départ de l'enseignement du prophète à Médine, qui représente donc le point de départ de la nouvelle ère islamique. Cette opposition donc, qui va être le cadre principal et permanent de perception des événements qui interviennent dans l'histoire, va maintenir la conscience musulmane dans un cadre de connaissance de type mythique, alors que la perception de type historique de ces mêmes événements va se développer en relation avec la fondation de l'État politique, comme je l'ai dit, principalement à partir des Omeyyades. Et donc ce qui est intéressant à suivre historiquement pour un historien, c'est la coexistence de la conscience mythique et d'une conscience historienne naissante en rapport avec donc l'État, les archives, etc., exactement comme en Occident, et l'interaction entre la conscience mythique et la conscience historique tout au long du développement de l'histoire des sociétés musulmanes jusqu'à nos jours. Et si j'insiste sur cette permanence d'une interaction et d'une distinction entre une conscience mythique et une conscience historienne, entre une perception mythique de la réalité sociale, politique vécue par les membres de la société et une perception historienne datée, marquée sur des archives, des ouvrages d'histoire, etc., de la même réalité, c'est parce que aujourd'hui, dans la pensée islamique actuelle, et principalement depuis les 30 dernières années, et plus encore peut-être depuis les 10 dernières années, en relation avec les événements que nous avons connus, principalement en Iran, la perception mythique reprend le dessus et se généralise dans les sociétés musulmanes, non pas parce que l'islam et l'enseignement coranique favorisent cette perception mythique plus que la perception historique, mais parce que les conditions de la perception justement des événements qui interviennent dans la vie des sociétés est liée au niveau de culture des groupes sociaux. Or, ce qui s'est passé depuis les 30 dernières années dans les sociétés musulmanes, je pense l'avoir déjà dit, c'est la croissance démographique considérable qui change complètement ce que les sociologues appellent les cadres sociaux de la connaissance. Les cadres sociaux de la connaissance traditionnelle sont bouleversés par une croissance démographique qui, en 30 ans, a plus que doublé dans toutes les sociétés musulmanes. Les jeunes générations nées après les années 50 grandissent dans un climat idéologique qui est infiniment plus fort et qui conditionne beaucoup plus profondément la perception des événements dans la société, des événements de l'histoire, que la formation que l'on acquiert lorsque l'on fait des études d'histoire, lorsque l'on fait des études de psychologie, lorsque l'on acquiert une culture moderne qui sert de cadre à la perception positive, historienne, historique des événements. Ceci donc caractérise aujourd'hui fondamentalement la perception de l'histoire par la conscience collective dans les sociétés musulmanes. Mais il faut ajouter à cela que le qualificatif mythique peut-être doit être révisé en fonction justement des modifications intervenues dans cette distinction que j'ai essayé d'introduire entre la conscience mythique et la conscience historique. En effet, le mythe fonctionne de façon positive pour offrir à un groupe une formulation positive, ouverte, généralement symbolique, des principales valeurs qui constituent l'identité culturelle, l'identité sociale, l'identité religieuse du groupe. Et le groupe se reconnaît dans ces valeurs, et ces valeurs servent à intégrer l'histoire du groupe dans le cadre de ce qui constitue son identité. Donc, de ce point de vue-là, le mythe joue un rôle éminemment positif. C'est ainsi que la connaissance mythique introduite par le Coran, ou introduite par les évangiles, ou introduite par les grands textes fondateurs, justement, des grandes identités culturelles et religieuses au cours de l'histoire des hommes, ce cadre mythique a joué et continue de jouer un rôle positif. Mais l'introduction de ce que l'on nomme aujourd'hui l'idéologie, c'est-à-dire une représentation du groupe tournée essentiellement vers l'action politique et qui consiste à changer les conditions politiques et sociales d'un groupe par une intervention essentiellement politique qui utilise, depuis le 19e siècle en particulier, une explication qualifiée de scientifique pour agir justement sur l'histoire des groupes. L'introduction de cette dimension idéologique à base conceptuelle et beaucoup plus que à base symbolique et métaphorique comme dans le discours mythique a modifié le fonctionnement de la conscience mythique. Et ici nous manquons d'un mot qui désignerait cette situation nouvelle, psychosociale et culturelle de la conscience collective telle qu'elle se transforme sous nos yeux dans les sociétés musulmanes. J'insiste également sur ce point-là parce qu'il est erroné de qualifier de mythique cette conscience qui est advenue dans les sociétés musulmanes depuis les 30 dernières années. Il est également dangereux et peu satisfaisant de la qualifier uniquement d'idéologique, surtout dans le sens négatif où l'on désigne aujourd'hui les idéologies profanes, détachées de la perception religieuse et de la sensibilité religieuse traditionnelle, et c'est à ce titre que ce n'est pas satisfaisant. Et donc il y a autre chose qui se dessine et qui se vit dans la conscience collective, qui emprunte à la fois à la conscience mythique religieuse traditionnelle et à la conscience idéologique d'essence politique et profane et conceptuelle qui devient de plus en plus forte dans nos sociétés, principalement donc depuis les 30 dernières années. Et il nous faut un qualificatif pour désigner ce grand phénomène qui est à la fois, je le répète, psychologique, social, politique et culturel. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe justement dans les sociétés musulmanes actuelles par rapport à l'évocation